Cercavo la grande bellezza, ma non l'ho trovata.
That's funny. What? I plains dust and crops where there ain't no crops.
I want to bring salvation. Father, take me back. Make a feast. Welcome me home. I want to be your son. I want to pay the price.
Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission de cinéma sur Transistor d'Étoiles plein les yeux. Pour ce dernier numéro en direct de notre première saison, La Toile accueille Les Ardennes, le premier film de Robin Pron. Car oui, on ne parlera pas de Cannes dans d'Étoiles plein les yeux, nous ne nous confondrons pas dans le commentaire sur Payette et votre émission reste garantie sans huile de palme. Quant aux yeux, il s'agit aujourd'hui de ceux de Clément et Corentin. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour Clé.
Bonjour Rémi.
Alors initialement, on pensait parler de Green Room, de Jérémy Saunier, qui avait réalisé l'an dernier l'époustouflant Blue Rain. Et puis il y a quelques mois, on avait vivement conseillé Je ne suis pas un salaud d'Emmanuel Finkiel. Et bien ici, on est quelque part entre l'univers de ces deux films. On a le même tragique, implacable et destructeur que dans le premier, mais les mêmes décors et les mêmes personnages que dans le second. Vous l'aurez compris, Les Ardennes est un film noir, très très noir, serré et sans sucre. Dans la première scène, Dave et Sylvie, respectivement frère et petit ami de Kenny, s'enfuient après un casse raté. Refusant de les dénoncer, Kenny passe 4 ans en prison et lorsqu'il en sort, Dave et Sylvie ont refait leur vie ensemble et le lui cachent, faute d'arriver à le lui avouer. C'est que le frangin est violent, instable, possessif et porté sur la boisson. Les mots sont durs, les regards sont tendus, et petit à petit la situation s'envenime, puis éclate dans une violence qui finit par balayer tous les personnages, témoins impuissants de leur existence ravagée. Alors, messieurs, votre avis sur ce film Les Ardennes ?
Alors moi, c'est un film que j'ai bien aimé. Je m'attendais pas trop à voir ça. La deuxième partie du film est assez surprenante et je n'en dirai pas plus. Bon, c'est un film qu'il ne faut pas aller voir quand on est déprimé, parce que c'est un film qui est très sombre, de par son histoire, comme de par sa réalisation. C'est toujours très terne, c'est une ambiance extrêmement terne, dans la lumière notamment. C'est un film qui est humide, alors j'ai le sentiment de dire ça régulièrement quand je viens d'Étoiles plein les yeux, c'est la programmation qui veut ça. C'est un film, on est quand même en Flandre, il pleut, il fait moche, il y a de la boue, et donc ça crée quand même une ambiance assez particulière. Et puis, c'est un film qui est très cynique, je trouve, parce que ça parle quand même de réinsertion dans la société d'un détenu et une réinsertion qui ne fonctionne pas. Et c'est à la fois malheureusement réaliste sur la situation des pénitents, des prisons et des prisonniers en France et en Occident.
Et alors toi, Corentin, ton avis ?
Oui, je suis un peu d'accord avec toi, Clément. C'est un film qui m'a plu. Je trouvais qu'il avait vraiment de la force. Bon, c'est vrai que l'histoire est quand même très dynamique, même si elle est très sombre et tout à fait originale. Enfin, on le découvre à la fin surtout. Mais voilà. Et bon, certes, c'est un film qui est très sombre, mais on retrouve aussi un certain esthétisme avec des plans assez beaux de la ville, des plans urbains vraiment même assez originaux, avec des couleurs assez incroyables parfois. Et c'est un film vraiment, ça m'a beaucoup plu ce côté-là.
Eh bien alors moi aussi, c'est vrai que hier soir à la fin du film, j'étais un peu abasourdi par le truc. C'est vraiment un film qui a une force incroyable et pour un premier film, il fait preuve d'une maturité qui vraiment m'impressionne.
Ouais, c'est impressionnant.
Il y a une maîtrise dans la gestion de ce film noir, dans la façon dont tous ces codes sont récupérés et sont mis à profit dans ce film. Il y a vraiment une tension qui est gérée de bout en bout. De scénarios parfois un petit peu casse-gueule mais qui tiennent parfaitement et une ambiance voilà, complètement maîtrisée et j'ai vraiment été estomaqué par ce film parce que ça te prend au trip quoi, et c'est vraiment complètement réussi pour moi et en termes de film noir je pense qu'on peut difficilement faire mieux.
Ah oui, c'est-à-dire que ça dure quoi ? Une heure et demie peut-être ? C'est une heure et demie qu'on ne voit pas passer, avec un rythme qui monte petit à petit tout au long du film, qui devient vraiment à la fois rapide et très intéressant à suivre. Et puis, le film parle quand même de beaucoup de choses. C'est un film qui parle quand même beaucoup de sexualité, je trouve. Et ce qui est intéressant, enfin moi ce qui m'a... Ce qui, qui m'a marqué dans ce film, c'est que tous les personnages ont une sexualité frustrée. Et alors, ça paraît anodin dit comme ça, mais ça l'est pas du tout, parce que même les personnages libres qui n'ont pas fait 5 ans de prison, il y a une scène de sexe où tu sens quand même que bah, ils sont frustrés parce qu'ils s'amusent pas. Et à contrario, le détenu, bah, qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi sa scène de sexe à lui? Bah, il se masturbe devant un film porno. Voilà. Et dans le noir, dans une pièce à peine plus grande que lui. Enfin, c'est assez noir et c'est assez intéressant de concevoir les personnages comme ça.
Mais c'est ça qui est incroyable, je trouve, avec ce film, c'est que il part d'une situation qui est complètement bloquée, renfermée sur elle-même, qui évolue plus depuis que le frère est entré en prison et depuis que finalement ils ont grandi tous, ils ont été conditionnés par un environnement complètement hostile et finalement le film arrive à faire quelque chose de vraiment incroyable, à sortir un petit peu de toute cette frustration, comme tu dis, on le voit très bien d'ailleurs, c'est très représenté dans la pièce dans laquelle il se masturbe justement, où c'est une pièce vraiment toute petite, où le personnage est complètement, on a l'air vraiment étouffé.
Comme s'il était en cellule encore en fait.
Oui.
Exactement, et de toute façon, enfin, tu dis qu'on sort de cette frustration, d'un autre côté, elle se resserre à chaque instant un peu plus sur les personnages. Il y a vraiment cette dimension complètement, enfin, tragédie grecque du film noir, ces personnages qui, du début à la fin, avancent contre leur volonté et qui sont menés à un terme. Je pense que c'est rien révélé que de dire que ça termine en un immense carnage, oui. En un carnage de bonne volonté, en un carnage d'être humain, en un carnage de toute la situation initiale.
Oui, mais
finalement.
Un carnage réparateur.
Un finalement. Carnage réparateur, mais qui détruit tout. Et c'est vraiment, il y a une dimension complètement destructrice dans ces personnages, dans oui. Leur enfermement, qui ne peut rien produire d'autre que leur propre destruction. Et on sait depuis le début le terme vers lequel on s'avance.
Oui. Ça, bon d'ailleurs, petite parenthèse, ça m'a fait penser à une petite série qui a rien de violent, mais qu'on peut trouver sur YouTube, qui s'appelle Bloqué. Peut-être que vous en avez entendu parler, qui met en scène deux jeunes adultes joués par Aurel San et Gringe, et qui représentent un petit peu cet environnement qui se renferme sur les personnages et qui les pousse à faire des choix qu'ils n'ont pas forcément envie d'avoir, justement.
Et à côté de ça, il y a quand même dans la mise en scène une certaine, entre guillemets, fougue de premier film, un certain surréalisme, parce qu'on a quand même une espèce de travestie bizarre au milieu des Ardennes et des autruches lâchées en liberté. Enfin, c'est quand même super casse-gueule à manipuler ce genre d'éléments de scénario. Et malgré tout, ça s'insère dans le scénario de façon finalement assez homogène. Et ça réussit à contribuer au malaise plutôt qu'à le désamorcer,
oui.
Je trouve.
Oui, oui, oui c'est le propre dans mon scénario, c'est quand on oublie ce qui nous a été dit au début et quand on revoit certains éléments, on se dit « Ah mais oui !» c'est dans ce film, ça marche vraiment très très bien.
Ça marche très très bien, ça marche très très bien grâce évidemment au jeu du trio d'acteurs qui est vraiment phénoménal dans son interprétation. Ouais. Enfin, y a quelque chose de vraiment théâtral dans cette interprétation. Je reviens à ma tragédie, mais il y a vraiment quelque chose de ça. Et puis peut-être qu'on peut dire un ou deux mots, tu parlais de l'esthétique, Corentin. Oui. Y a ces plans très très sombres, ces lumières verdâtres, rougeâtres qu'on aime bien dans ce genre de film aussi, et il y a la musique.
Oui.
Ah bah c'est un film sur les marges, bon ça c'est une banalité de le dire, mais surtout sur ces marges urbaines, on a des personnages qui habitent dans une banlieue déshéritée, industrielle, quelque part en Flandre, voilà, à Anvers, où on sent le poids du milieu social qui pèse, des conditions socio-économiques qui pèsent. Et
dont le rêve justement est de sortir de ces conditions-là, la Sylvie justement, la oui. femme... L'ex-femme de Kenny veut justement devenir un couple banal, c'est ce qu'elle dit, regarder la télé le soir en rentrant, faire quelque chose de moins... Voilà, moi je t'ai coupé, excuse-moi.
Non, c'est pas grave. Il y a une manière de filmer ces banlieues industrielles, parce que c'est aussi une manière de former ces banlieues déshéritées, ces banlieues post-industrielles, où on n'a pas beaucoup de travail, où on a un travail... peu rémunérateur et assez... Voilà.
C'est vrai que ce que tu dis, c'est un film assez réaliste. Tu l'avais dit au tes débuts et bon, tu poursuis ce... Mais je trouve que peut-être, si on veut le voir comme ça, c'est un film qui est, un, qui exagère un peu trop la situation, parce que finalement, qu'est-ce qu'on a ? Bah, on a en un certain trio de personnages, les deux frères et Sylvie, tous les malheurs du monde qui sont réunis, en fait. Problème d'argent, problème de sexe, enfin finalement avec la relation de Sylvie avec les deux frères, et problème d'alcool, armes, crimes, etc. C'est peut-être un petit peu poussé à l'extrême.
Mais c'est aussi la vocation de ce genre de film, justement.
C'est le propre de la tragédie, non ?
Ça, et puis justement cette dimension sociale, elle passe par une exagération qui finalement fonctionne sur le spectateur, parce que le spectateur intériorise complètement cette exagération. Oui. Et je te parlais de la musique tout à l'heure, il y a cette musique techno qui scande le film, ça, et qui contribue aussi à créer une ambiance. Enfin, il y a des moments où on est vraiment agressé par cette musique, comme on est agressé par la grisaille ambiante.
Qui d'ailleurs, musique qu'on entend surtout pendant la première partie, avant qu'ils partent dans les Ardennes.
Voilà, donc les Ardennes, c'est comme ça que ça s'appelle, c'est de Robin Prend, et si vous avez envie de le voir, dépêchez-vous, il n'est plus en salle pour très longtemps. Voilà, et encore une fois, un programme très très chargé au cinéma cette semaine. Alors, je reviens sur un film dont j'avais déjà rapidement parlé, Maloute de Bruno Dumont. Vous avez compris, il nous fait vraiment envie celui-là. On est en été 1910 dans la baie de la Slack, dans le nord de la France. Et Odd van Peteghem, une grande bourgeoise lilloise, s'extasie sur la beauté des lieux devant André, son frère passablement agacé, en vacances avec sa femme Isabelle. De mystérieuses disparitions mettent en émoi la région. L'improbable inspecteur Machin et son sagace adjoint Malfoy, trait Dupont-Dupont, mènent l'enquête. Et ils se retrouvent, bien malgré eux, au cœur d'une étrange et dévorante histoire d'amour entre Maloute, fils aîné d'une famille de pêcheurs aux mœurs particulières, et Billy Van Peteghem, la benjamine de ces riches bourgeois. Une farce grinçante et burlesque signée Bruno Dumont. Et puis « L'ange blessé » de Emir Baygazin, quatre adolescents qui vivent dans un village du Kazakhstan, tentent de se construire une autre vie. Le jeune Jaras aurait voulu continuer ses études mais doit travailler pour nourrir les siens lorsque son père sort enfin de prison. Doté d'une très belle voix, Poussine aimerait devenir chanteur mais les petites frappes autour de l'école lui volent son rêve. Crapaud, à la recherche de métaux à vendre, tombe sur trois illuminés qui lui font miroiter un trésor caché. Brillant élève, Aslan voit son avenir compromis quand sa petite amie tombe enceinte. Rien de drôle dans ce film à sketch venu du Kazakhstan. Film noir, profondément social, qui dépeint quatre destins. Quatre adolescents qui devront brûler leurs ailes pour trouver une place dans le monde. Et puis on en a parlé tout à l'heure, Julieta de Pedro Almodovar. Sur le point de quitter définitivement Madrid, Julieta, professeure de 55 ans, rencontre par hasard Bea, une amie d'enfance de sa fille Antia. Bea a rencontré Antia quelques jours plus tôt. Julieta décide donc d'écrire à sa fille à propos d'un secret trop douloureux pour être révélé. Une fois sa confession écrite, elle ne sait où l'envoyer, car sa fille l'a quittée à l'âge de 18 ans. Et depuis une douzaine d'années, Julieta n'a plus la moindre nouvelle d'elle. Elle l'a cherchée par tous les moyens possibles, mais les résultats de cette recherche confirment qu'Antia reste pour elle une parfaite inconnue. Almodovar continue à filmer des femmes en proie au doute, terriblement humaines. Et gageons que c'est à nouveau un très beau film qui nous attend là. Je termine avec Le Dernier Métro qui passe deux fois ce week-end à l'Institut Lumière. Nous sommes à Paris en 1942. Lucas Steiner, un metteur en scène juif, s'est officiellement réfugié en Amérique, laissant la direction du théâtre Montmartre à son épouse Marion, une comédienne. En réalité, elle vit dans les caves de l'établissement qu'il n'a pas pu se résoudre à abandonner. Marion lui rend visite tous les soirs et recueille ses directives. C'est ainsi qu'elle s'apprête à monter la pièce norvégienne dont Lucas avait préparé la mise en scène. Jean-Loup Cotin, un vieil ami, introduit auprès des milieux collaborateurs, s'efforce de lui venir en aide, tandis que le premier rôle qu'elle a engagé, Bernard Granger, cumule allègrement répétition, résistance clandestine et amour passionné pour Marion. 10 Césars récompenseront ce film de François Truffaut qui est désormais considéré comme un véritable chef-d'œuvre avec Catherine Deneuve et Gérard Depardieu au sommet de leur jeunesse. Et voilà, donc d'Étoile Planète 2, c'est fini pour aujourd'hui. On va y arriver. Merci beaucoup à vous deux, Mathias et Corentin, pour avoir participé à l'émission. Merci à Marie au jingle, merci à Manu à la régie. Encore 3 numéros d'ici la fin de l'année, à mercredi prochain. Donc, bonne semaine dans les salles obscures. La semaine prochaine, nous parlerons de Café Society.
Il est 16h01 sur Transistor. Et avant de retrouver Corentin dans Danse avec les maths, c'est l'heure du Flash Info.
Nouvelle journée de mobilisation aujourd'hui mardi 17 mai à l'appel de 7 syndicats et des organisations de jeunesse. On se dirige vers des grèves reconductibles chez les routiers, les marins, les facteurs, la SNCF et Paris Aéroport. Cependant, hier sur Europe 1, le président de la République François Hollande a annoncé qu'il ne céderait pas sur la loi dite la loi travail, la loi de refonte du code du travail. Les manifestations sont à l'honneur, menées par la CGT et notamment la SNCF. On compte des milliers de manifestants à Paris aujourd'hui, cortège qui se déplace de l'école militaire jusqu'à la place d'Enfer Rochereau. Des mouvements sont prévus dans toute la France, notamment à Nantes, Rennes qui a été le théâtre d'affrontements violents la semaine dernière, Marseille et surtout en Normandie où le mouvement est très suivi. C'est notamment aussi les chauffeurs routiers qui font parler d'eux aujourd'hui, menés par les syndicats Force Ouvrière et la CGT, qui ont prévu une opération escargot qui a débuté dès 8h le matin entre Dourges et Arras et c'est notamment les régions du Nord et de la Normandie qui sont touchées. Côté médias, Vincent Bolloré a détaillé au journal Les Échos sa stratégie pour sauver la chaîne Canal+. Le propriétaire du groupe souhaite obtenir de l'autorité de la concurrence le droit d'être le distributeur exclusif de beIN Sport. Et Vincent Bolloré a aussi annoncé qu'une réduction des plages en clair était prévue de la petite chaîne privée. Anne Hidalgo, pour finir, sur une note un peu plus joyeuse, promet des bains dans la Seine en cas de victoire de la candidature de Paris pour les JO de 2024. Et moi, je vais aller piquer une petite tête.
Jacques Chirac nous le promettait déjà en 77, je crois. Mais merci en tout cas, Mathias, pour ce Flash Info, le dernier de l'après-midi.